Bonjour Jacqueline Boniface.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver pour ce deuxième rendez-vous philosophique sur Liberté FM. Cette semaine, vous nous invitez à réfléchir à une question plus actuelle que jamais face à l'essor de l'intelligence artificielle générative. Qu'est-ce qui fait encore la singularité de l'être humain ? On vous écoute.
Merci. On a longtemps pensé que l'intelligence, dans sa capacité à parler, raisonner, créer, inventer, était le propre de l'humain. Or, depuis quelques années, l'IA nous parle, crée des œuvres d'art, écrit des textes, résout des conjectures mathématiques irrésolues depuis plusieurs années. Ces innovations ont contribué à améliorer nos vies et continuent à le faire. Elles ne sont cependant pas, on le sait, sans danger. C'est sur un de ces dangers que je me pencherai ici, celui de la dépendance que crée le développement de l'IA au sein même de nos vies, de notre intimité, remettant en cause le sens même de notre humanité. La question se pose alors de savoir comment préserver ce qui, en nous, demeure proprement humain, demeure inappropriable. Inappropriable est justement le titre du livre de Mazarine Pinjot qui vient d'être édité dans la collection Climat de Flammarion, dont le sous-titre « Ce que l'IA fait à l'humain » dit bien la visée de cet ouvrage qui est d'interroger les conséquences sur nous, humains, sur nos modes de vie, de cette innovation et de son déferlement dans nos existences. À l'essai de Mazarine Pinjot répond comme un écho le roman de Delphine Le Vigan, Je suis Romane Monnier, paru aussi cette année aux éditions Gallimard. Ce roman raconte l'histoire de Thomas, quadragénaire dont le téléphone est devenu, comme pour beaucoup d'entre nous, l'appendice indispensable de sa personnalité et qui découvre que celui qu'il a en main n'est pas le sien. Lorsqu'il parvient enfin à joindre la propriétaire de ce dernier, celle-ci lui fait comprendre qu'elle ne souhaite pas le retrouver, mais qu'elle le lui confie, ainsi que son contenu, en lui livrant son code d'accès. Thomas se lance alors dans une enquête numérique qui le plonge dans l'intimité de cet inconnu et révèle en creux tout ce que nous confions sans y penser à nos smartphones. Par le format que Delphine Le Vigan adopte pour son roman, lequel intègre dans le récit les mails, SMS, enregistrements vocaux, l'autrice interroge, comme Mazarine Pinjot, la colonisation de nos vies par la numérisation, témoignant de la même inquiétude que celle-ci sur ce que les algorithmes font à notre humanité. La philosophe et la romancière offrent différentes réponses à ce questionnement. Pour Mazarine Pinjot, c'est le doute au cœur de l'humain qui distingue celui-ci du ChatGPT, lequel se caractérise au contraire par le fait d'avoir réponse à tout. La machine sait répondre à tout, écrit-elle, mais peut-elle ne pas répondre ? Et surtout, sait-elle poser de nouvelles questions ? Serait-elle capable d'introduire le vide dans le magma du monde et l'évidence du plein dont elle est la promesse ? Dans le même sens, Delphine Le Vigan explique : l'IA produit un langage essentiellement statistique, qui est le résultat de calculs. Or, il me semble que la littérature, elle, existe pour poser des questions. Un livre comme « Je suis Romane Monnier » est un livre qui est fait de questions, qui naît de mes propres angoisses, de ma propre intranquillité par rapport à l'époque dans laquelle j'évolue. Et je ne crois pas, peut-être que c'est naïf, que pour l'instant, l'IA sait produire quelque chose de cet ordre-là, parce que précisément, elle ne se pose pas de questions. Il y a une autre dimension qui me paraît proprement humaine, c'est la capacité à décider, c'est-à-dire à trancher, sans pouvoir s'appuyer sur des raisons rationnelles. Une décision, en effet, doit intervenir lorsque le choix argumenté ne peut s'appliquer, lorsque demeure une incertitude quant à savoir s'il s'agit du bon choix. Faute d'arguments suffisants, il faut alors trancher. Kierkegaard, philosophe danois du XIXe siècle, définit ainsi le saut méta-rationnel de la foi. C'est justement parce qu'il n'y a aucune raison de croire en Dieu que je peux décider d'y croire. Décider est donc faire un saut hors de la rationalité, ce qui est impensable pour une IA qui, elle, en reste au plan de la raison et de la continuité. Un autre point, et pas le moindre, qui nous différencie de la machine est notre capacité à éprouver des sentiments. Or, cette capacité, si elle n'est pas encore partagée avec les machines, les plus perfectionnées d'entre elles commencent à la mimer. C'est ce qu'exprime Delphine Le Vigan qui remarque dans son roman « Roman dialogue avec une IA qui la réconforte, qui l'invite à se confier ». Pour l'autrice, c'est ce simulacre, cet anthropomorphisme qui est le plus effrayant. Il est effrayant en effet car il conduit à la question « et si le simulacre devenait réalité ?». Ce mimétisme, Alexei Greenbaum, philosophe et physicien, l'attribue aux affects et qualités morales que nous projetons sur la machine. Dans le passage suivant de son livre « Paroles de machine », cité par Mazarine Pinjot, il explique « Qu'un chatbot soit perçu comme bienveillant, attentionné, méchant ou criminel, ses perceptions, tout comme les émotions attribuées au chatbot, n'existent qu'à travers la mise en relation. L'individu numérique ne devient en aucun cas une personne morale, ni une personne au sens juridique du terme. Or, les projections de qualité morale peuvent aller jusqu'à attribuer une responsabilité à l'individu numérique qui ne peut, par son essence, en porter une. Une telle capacité à éprouver des sentiments a cependant été envisagée dans une série suédoise parue en France en 2013 et diffusée sur Arte. Cette série, intitulée « Real Humans », se déroule dans une Suède contemporaine alternative où l'usage des hubots, mots valises formés d'humains et de robots, a envahi maisons particulières et entreprises. Cette nouvelle technologie satisfait les uns qui y voient un progrès technique et social. Elle en effraie d'autres qui redoutent que les humains soient progressivement remplacés par les hubots dans les lieux de travail où ils sont déjà employés pour des tâches subalternes et dans la sphère privée où on leur confie aussi le rôle de compagnon ou même d'amant. Un programme particulier inoculé à quelques-uns de ces hubots leur permet justement d'avoir des sentiments et des pensées autonomes. C'est cet aspect qui m'a intéressée en regardant la série, car il laisse imaginer que le franchissement de cette limitation des chatbots, qui les sépare encore des humains, pourrait arriver un jour. Que resterait-il alors de spécifique à notre humanité? D'autant plus que la fiction fait apparaître certains hubots par le programme qui les a créés, leur interdisant par exemple de mentir, d'une probité morale exemplaire, bien supérieure à celle des humains, trop humains, que nous sommes.
Merci beaucoup Jacqueline Boniface pour cet éclairage qui nous rappelle qu'à l'heure où les machines savent de mieux en mieux nous imiter, notre plus grand défi est sans doute de préserver ce qui fait la richesse de notre humanité. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur Liberté FM pour une nouvelle chronique philosophique. Excellente semaine à toutes et à tous et merci Madame Boniface.